Pays d'aujourd'hui, territoire de demain. Votre proche environnement évolue grâce aux missions du pays de la Haute-Sarthe et du SCOT pour rendre cohérents les services et l'espace de votre lieu de vie que vous utilisez au quotidien. Bien comprendre son territoire de vie est essentiel pour mieux y vivre. Cette émission, initiée par le pays de la Haute-Sarthe, vous informe sur votre territoire. Une émission co-réalisée par Radio Alpes-Mancel 106.3 et Fréquence Sillée 97.9.
Aujourd'hui, présentation du schéma de cohérence territoriale appelé SCOT du pays de la Haute-Sarthe. Une émission préparée et réalisée par Emmanuel Bouget de Fréquence Sillée. Jean-Philippe Strebler, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur de la Fédération des SCOT, ces schémas de cohérence territoriale dont nous parlons dans cette émission. Première question, pouvez-vous présenter votre fédération ?
Alors, la Fédération nationale des SCOT est une jeune association créée en juin 2010 et qui a pour vocation de fédérer, comme son nom l'indique, les établissements publics qui, sur le territoire national, sont en charge d'élaborer et de mettre en œuvre les schémas de cohérence territoriale.
Qu'est-ce qu'un SCOT ?
Alors, qu'est-ce qu'un SCOT ? Un SCOT, c'est un document d'urbanisme qui a vocation à définir sur le moyen et le long terme les orientations des politiques publiques d'aménagement du territoire dans les domaines principaux que sont l'habitat, le développement économique, les déplacements, l'environnement, et en essayant de donner un maximum de cohérence aux orientations de ces différents domaines. Il va ensuite avoir vocation à s'appliquer, à s'imposer en quelque sorte avec une relation souple qu'on appelle une relation de compatibilité aux collectivités publiques, en particulier dans l'élaboration de leurs documents communaux ou intercommunaux que sont les plans locaux d'urbanisme notamment.
Est-ce qu'un pays doit obligatoirement se doter de ce document d'urbanisme ?
Alors, à ce jour, qu'il s'agisse de SCOT ou de PLU, la loi ne fixe pas d'obligation stricto sensu d'élaborer des documents locaux d'urbanisme au nom du principe constitutionnel de libre administration des collectivités. Ceci étant, le législateur a estimé qu'il fallait inciter les collectivités territoriales à se doter de tels documents, et pour cela, il a fixé un régime consistant à dire, si vous n'avez pas de SCOT, on vous oblige pas en faire, mais si vous n'en avez pas, vous ne prévoyez pas de nouveaux secteurs d'extension. Voilà. Évidemment, quand on est dans un secteur où il y a des besoins à satisfaire qui passent parfois, et pour pas dire souvent, par un peu d'extension urbaine, si on n'a pas de SCOT, on n'est plus censé ouvrir de nouveaux secteurs à l'urbanisation. Il y a une forte incitation législative.
Alors, est-ce qu'on peut être un peu plus concret, en fait, concernant, les objectifs d'un SCOT ? On parle d'urbanisme par rapport à un territoire. Qu'est-ce qu'on va définir précisément ?
On va essayer de travailler sur les différentes composantes de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire de s'intéresser aussi bien aux besoins de logements à satisfaire, donc sur la base à chaque fois de diagnostics de ce qui se passe sur le territoire et de ce qu'on peut imaginer qui pourrait se passer dans les années à venir, quels sont les besoins à satisfaire dans le cadre notamment d'un vieillissement de la population. Donc c'est sans doute pas tout à fait le même type de logements qui devront être présents dans les décennies à venir que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc il va falloir réorganiser cette offre de logements, il va falloir trouver à les répartir sur le territoire en tenant compte des problématiques de déplacement qui ne vont pas aller en s'améliorant dans les années à venir, en particulier si on pense aux déplacements automobiles et individuels, ça risque d'être de plus en plus compliqué, notamment du point de vue du coût de ces déplacements individuels. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que demain, après-demain et après-demain, le territoire fonctionne le mieux possible, avec des logements correctement répartis, avec des gens qui pourront correctement se déplacer, avec des offres d'emploi, des postes de travail qui soient soit correctement, là encore, réparti, organisé sur le territoire, donc pour que les gens puissent y accéder, pour que ces entreprises puissent fonctionner, qu'elles puissent recevoir les matières premières dont elles ont besoin et qu'elles puissent expédier les produits qu'elles fabriquent. Alors, aussi bien produits matériels qu'immatériels, ça renvoie le cas échéant aux problématiques d'infrastructures numériques du territoire. Donc quand on parle de déplacement, c'est pas forcément que du déplacement physique, et bien évidemment avoir le souci de préserver, de ménager l'environnement dans lequel ces activités humaines, habitat, économie, déplacement vont se déployer, pour laisser une terre vivable à nos enfants, à nos petits-enfants, c'est-à-dire penser à la biodiversité, à la préservation des réservoirs biologiques que le SCOT a vocation à identifier en tenant compte évidemment de toute une série d'études qui peuvent exister, qui peuvent avoir été faites par ailleurs, mais donc sur l'échelle du territoire du SCOT, identifier des réservoirs, identifier les besoins de continuité et de ce qu'on appelle des corridors écologiques entre ces réservoirs biologiques pour que la biodiversité puisse perdurer, etc. etc.
Voilà, donc c'est vrai, beaucoup de domaines rentrent en jeu, mais d'un pays à l'autre, en France, le SCOT est différent. Et il s'adapte finalement aux caractéristiques propres au pays.
C'est tout l'intérêt de l'outil que de l'élaborer dans un territoire pertinent de bassin de vie, etc. Donc de plus en plus souvent à l'échelle des pays, parce que c'est des endroits où les élus prennent l'habitude de travailler ensemble, de réfléchir, de discuter, de décider d'options de leur avenir en commun. Donc, évidemment, la loi fixe un certain nombre de principes. Par exemple, l'un des principes importants sur lesquels on le législateur a insisté ces dernières années, c'est l'idée d'économiser la consommation foncière, donc d'être sans doute un peu moins expansif en termes de consommation d'espaces agricoles, naturels ou forestiers que ces dernières décennies. Et donc, bien sûr, on a ce principe posé par le législateur, mais c'est localement qu'il va falloir élaborer le projet qui convient au territoire. Ce sont pas les élus tout seuls, bien sûr, ce sont eux, les élus locaux, qui vont prendre toutes les décisions importantes pour leur schéma de cohérence territoriale, mais ce travail va être fait en associant toute une série de partenaires. L'État, bien évidemment, garant de la légalité des choix et du respect des lois, la région, le département, les organismes compétents en matière de transport public, le parc naturel quand il existe, enfin voilà, on a toutes les chambres de commerce, les chambres d'agriculture, les chambres de métier, donc on a toute une série d'organismes publics et parapublics qui sont associés directement à l'élaboration de ces choix locaux par les élus, et tout ça se faisant dans la concertation avec l'ensemble des acteurs, y compris la population. Alors c'est vrai que c'est pas toujours l'exercice le plus facile que d'aller vers les habitants pour leur expliquer les grands enjeux pour les 20-30 ans à venir. Les gens ont parfois l'impression que c'est relativement abstrait, sauf que dans la mise en œuvre des politiques publiques aujourd'hui, on fixe et on dessine des choses qui vont les concerner directement l'ensemble des habitants dans les 10, 20, 30 ans à venir.
Gérald Billard, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler avec vous du schéma de cohérence territoriale, ce fameux SCOT de Haute-Sarthe pour lequel vous travaillez. Vous êtes professeur en aménagement de l'espace et urbanisme, et directeur adjoint d'un laboratoire de recherche du CNRS implanté à l'Université du Maine. Pouvez-vous d'abord nous dire comment vous avez été amené à travailler pour le syndicat mixte du pays de la Haute-Sarthe?
Alors, on a été contacté au mois de janvier 2012 par le syndicat dans la perspective, effectivement, de lancer un diagnostic SCOT sur le pays de la Haute-Sarthe. Alors, on a été contacté sans doute pour deux raisons. La première, c'est qu'on a un petit peu l'habitude de travailler sur ce type de problématique puisque on collabore aussi avec le syndicat mixte du Pays du Mans sur le diagnostic de leur SCOT. Et puis, y avait une volonté, je pense, des élus et des techniciens du pays de la Haute-Sarthe de travailler avec des gens plutôt de proximité, sans doute avec des universitaires qui puissent d'abord mettre un certain nombre de méthodologies à leur disposition. Et puis, je pense aussi leur parler un petit peu plus librement ou avec des nouvelles idées par rapport peut-être à un bureau d'études qui ont toujours des approches relativement calibrées, classiques, normées. Là, on est un peu dans le service coûts humains. Et je pense que c'est ce qui les a intéressés.
Qu'est-ce qu'ils attendent de vous ?
Alors nous, on intervient vraiment dans la première phase qui est à la fois la collecte des données et l'organisation des données et la communication autour de ces données. L'objectif étant de dégager des grands enjeux, il faut en amont que on ait la meilleure vue possible de ce territoire. Et c'est vrai que nous, d'un point de vue méthodologique, on travaille sur de la cartographie, on travaille sur de l'analyse de photos SAT, on a l'habitude de travailler sur des données statistiques. Donc on a mis un peu tout ça au service du pays de la Haute-Sarthe, avec aussi, je pense, essayer d'avoir une vision, encore une fois, assez exhaustive de ce territoire.
Comment effectuez-vous votre travail ?
Alors, on a travaillé en amont sur toutes les thématiques. C'est-à-dire, on a défini avec le pays de la Haute-Sarthe toutes les thématiques qui rentraient dans l'élaboration d'un SCOT. C'est quand même assez, là aussi, normé. Il y a quand même plusieurs dizaines de SCOT en France déjà réalisés. Donc, on sait quand même... puis, il y a des directives de l'État aussi, des services de l'État. Donc, on sait ce qu'on doit retrouver dans le SCOT. Donc, en amont, on a eu des rendez-vous préparatoires avec les techniciens du pays de la Haute-Sarthe. Et derrière ces thématiques, on met en face de chaque thématique les données dont on a besoin pour traiter cette thématique. Et puis, on travaille avec des partenaires comme la DDT, Direction départementale du territoire. On travaille avec les CCI, avec les chambres des métiers, etc., les chambres d'agriculture. Plus les données de l'INSEE. Donc en fait, nous, on est vraiment chargé d'aller récolter toutes les données et de les mettre en forme et de les rendre communicables surtout.
Alors justement, on va communiquer. Vous allez nous dire un petit peu comment vous voyez ce pays déjà, puisque vous avez commencé début de l'année 2012. Comment vous le percevez, ce pays ? Est-ce qu'on peut le définir ? C'est un territoire rural.
Alors territoire, c'est un territoire que j'appelle, j'appelle un peu hybride. Pourquoi hybride ? Parce que effectivement, il y a des parties qui sont très rurales, avec des très petites communes, avec une activité, une occupation des sols très très agricole. Mais vous avez aussi pratiquement la moitié du pays qui est très liée aux deux aires urbaines d'Alençon et surtout du Mans, ce qui veut dire qu'on a des habitants qui effectivement habitent le pays, mais qui ont des modes de vie, qui ont des déplacements qui sont y compris commerciaux. Alors ils vont pour leur travail, mais aussi pour accéder aux services ou au commerce, qui sont très liés à la proximité de ces grands pôles urbains. Donc on a dans beaucoup de communes un paysage qu'on pourrait dire rural. Ou de campagne, mais en fait les habitants ont des modes de vie finalement très très urbains. Donc on a cette espèce d'hybridation aujourd'hui sur ce territoire qui le rend assez complexe finalement à définir.
Comment voyez-vous ce territoire à l'avenir ? Comment voyez-vous son développement futur ?
Alors les grands enjeux effectivement devront être de toute façon déterminés par les élus. Nous, on est là pour apporter les informations, encore une fois, en amont, pour qu'ils puissent prendre une décision à 10-15 ans, puisque le SCOT, normalement, ça s'applique sur un peu plus d'une dizaine d'années. On peut dire que, encore une fois, l'enjeu principal, c'est comment le pays peut se développer en gardant ou en développant une certaine identité, une cohérence, tout en étant pris en étau, encore une fois, par ces deux aires urbaines qui influencent très nettement les modes de vie, voire les occupations des sols, puisque évidemment, il y a des pressions très importantes pour construire de nouvelles maisons, de nouveaux lotissements, pour accueillir des gens qui quittent la ville ou les agglomérations et qui veulent qui veulent acquérir une propriété, enfin accéder à la propriété en périphérie. Ce qui perturbe quand même ce modèle purement rural. Voilà. Plus qu'un déséquilibre nord-sud, parce que là, en fait, la polarité, elle est vers le sud, vers le Mans, vers le nord, vers Alençon, avec un axe important de circulation, Le Mans et Alençon, donc autour duquel il y a du développement, puisque ça permet des mobilités très, très, très rapides. J'irais plutôt que là, le comme vous dites, ce déséquilibre, c'est plutôt ces angles morts que l'on voit apparaître, angle mort au sens commune peu attractive, peu développée, un peu éloignée des même avec le réseau routier, qu'on du mal à ce réseau routier, il maille mal ce territoire à certains endroits. Et c'est ça effectivement le risque, et ça se situe plutôt vers le centre-est, centre-ouest du pays. Voilà, plutôt que nord-sud, c'est on voit ces poches comme ça qui apparaissent très nettement sur les diagnostics.
Alors, en matière d'aménagement du territoire, on doit prendre en compte beaucoup de choses différentes. Le but est de concilier toutes ces composantes dans un même souci de développement et de développement durable.
Voilà, exactement. Et le premier souci qu'on va avoir, parce qu'on n'a pas tout, on n'a pas encore commencé cette étude-là, c'est-à-dire que une des particularités du SCOT, c'est à terme de freiner la consommation foncière, de mieux la localiser sur le territoire en fonction des besoins. Et notamment, ça veut dire qu'en amont, on est en train de faire l'étude pour voir combien de foncier a été utilisé depuis une dizaine d'années. Alors généralement, c'est on mesure l'urbanisation de terres agricoles ou naturelles. C'est comme ça que ça se mesure. Et les directives SCOT font que dans les 10 prochaines années, on doit réduire de moitié cette consommation foncière. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire du développement de ce territoire tout en consommant moins d'espace et en localisant mieux les parcellaires qui seront mis à l'urbanisation. Ça veut dire protéger les meilleures terres agricoles, évidemment. Ça veut dire développer le foncier là où on a des réseaux de transport, notamment transport en commun, parce que là aussi, c'est les directives SCOT qui sont donc des transports en tout commun qui sont développés. Ça veut dire qu'il faudra faire des choix. Il faudra certainement baisser des densités, baisser des tailles de parcelles, y compris pour des maisons individuelles, ce qui va pas être forcément très facile à faire admettre à la fois aux futurs acquéreurs des propriétés, aux habitants, enfin aux futurs habitants, et aussi aux élus qui vont devoir peut-être avoir une politique foncière un petit peu différente. Mais de toute façon, la règle, elle est là, il faudra diviser au moins par deux la consommation foncière des 10 dernières années.
Je suppose que vous avez aussi l'avis des élus. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment voient-ils tout ça? Est-ce qu'ils sont d'accord, justement, pour élaborer un projet qui ne les concerne pas forcément uniquement sur leur territoire d'élection, je dirais, mais qui concerne tout un territoire de 82 communes avec combien d'habitants? Près de 50
000. Plus de 47 000.
Plus de 47 000, près de 50 000. Voilà. Est-ce que les élus se sentent concernés?
Alors, les élus, concernés. Nous, on a pu le mesurer, en tout cas, sur les deux premiers rendus du diagnostic. Il y avait quand même beaucoup d'élus assez rendus. On les sent concernés globalement aussi autour des constats que l'on peut faire. Concernés aussi par l'avenir, c'est-à-dire de se dire effectivement on doit élaborer un document qui respecte l'idéologie, la philosophie du développement durable. Maintenant, ça va être le passage à l'acte, et là c'est encore un petit peu trop tôt pour en parler, puisque le diagnostic n'est pas terminé, et derrière ce diagnostic, les élus vont se positionner sur des enjeux. Là, ce que nous, on peut un petit peu remarquer, c'est encore cette tendance, mais elle est tout à fait normale, à un peu auto-centrer leur regard sur leur propre commune. Puisque effectivement, en même temps qu'on produit des données à l'échelle du pays, ils ont aussi accès dans nos rendus à ces données à l'échelle de leur commune. Donc ils ont un peu tendance finalement à revenir sur cette échelle de la commune, alors que nous, on doit traiter 82 communes. Et ce document, il doit trouver un équilibre sur l'ensemble des territoires communaux qui sont là. C'est ça aujourd'hui le message un peu plus difficile à faire passer, mais c'est normal aussi. Hein, ça fait à peine un an qu'on est dans le processus. Un processus comme ça, ça dure entre 2 ans et demi et 3 ans, enfin 2 ans et demi et 3 ans et demi. Donc il y a une culture du travail ensemble, une culture du changement d'échelle territoriale qui est pas évidente. Donc ils sont en train d'acquérir cette culture, je pense.
Merci Gérald Billard d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes professeur en aménagement de l'espace et urbanisme et que vous êtes directeur adjoint d'un laboratoire de recherche dédié à toutes ces questions qui est situé ici à l'Université du Maine. Merci à vous.
Merci.
Lionel Goyer, président du Conseil de développement, bonjour.
Bonjour.
Et Nicolas Potier, directeur du syndicat mixte du pays de la Haute-Sarthe, qui est avec nous au téléphone, bonjour.
Bonjour.
Alors Nicolas Potier, ce schéma de cohérence territoriale du pays de la Haute-Sarthe a été lancé. Hein. Alors quels sont les outils et les moyens dont vous disposez pour mener à bien ce projet ?
Sur le pays de la Haute-Sarthe, donc le pays de la Haute-Sarthe a 7 agents. Tous les agents donc sont sensibilisés au SCOT. Il y a un agent qui est dédié en tout cas à la mise en œuvre de ce SCOT sur la structure et qui suit donc la mise en œuvre de ce projet. Alors pour réaliser la première phase de diagnostic, le pays en interne n'a effectivement pas les moyens ni les outils nécessaires pour élaborer ce diagnostic. Donc le syndicat mixte a engagé un partenariat avec l'Université du Maine, avec le laboratoire Espace et Société du CNRS, qui est en charge donc de l'élaboration de ce SCOT. Donc ça consiste à recueillir des données auprès de partenaires, au niveau de l'INSEE, au niveau des services de l'État, de faire des regroupements avec des données des pages jaunes, et donc de proposer 4 volets de diagnostic, un premier sur la démographie et les équipements, un deuxième sur la mobilité et les polarités, un troisième volet sur le développement économique et un quatrième volet sur le développement agricole.
Et où en êtes-vous aujourd'hui ? Quelles sont les étapes que vous avez encore à franchir et celles que vous avez déjà franchies dans cette étude, ces études, ce diagnostic ?
Alors, deux volets ont été restitués et présentés aux élus. Le premier, donc, a été restitué, donc c'est le volet démographie et habitat population. Il a été restitué le 25 juin. Le deuxième volet sur la mobilité et sur les polarités a été restitué aux élus le 27 septembre. On aura donc la restitution du volet développement économique mi-décembre, puis le diagnostic sur l'agriculture mi-janvier. Il nous restera qu'une phase à présenter aux élus, c'est la phase, le diagnostic sur l'environnement, ce qu'on appelle l'état initial de l'environnement. Et donc on travaillera avec un prestataire pour réaliser ce diagnostic sur l'environnement entre février et septembre 2013. Et donc en septembre 2013, le diagnostic sera réalisé, donc est restitué aux élus et aux partenaires publics du SCOT. Il est prévu, suite à ces restitutions, qu'on sensibilise la population et nos partenaires sur ce diagnostic. Donc on prévoit des expositions, des animations autour de ce diagnostic pour diffuser largement l'état du territoire sur ces différentes thématiques.
Justement, sur les deux thématiques que vous avez traitées, notamment la polarité, la mobilité et puis démographie, habitat, cadre de vie, quelles sont les tendances, les problématiques qui se dégagent ?
Alors, sur les deux phases, on a effectivement une tendance qui se dégage, c'est que le territoire est structuré avec trois pôles, trois espaces différents. Les pôles principaux, qui sont en fait les chefs-lieux de canton, Sillé-le-Guillaume, Fresnay-sur-Sarthe, Beaumont-sur-Sarthe, Conly, Marolles-l'Hébreu. Après, on a des pôles relais, donc c'est des communes qui disposent d'une offre de services et de commerce limitée, qui fonctionne en complémentarité avec donc ces chefs-lieux de canton. Voilà, c'est les communes comprises entre 500 et 1000 habitants à peu près. Et puis, on a un espace rural polarisé, donc c'est des communes de moins de 500 habitants, marquées par une absence de commerce et de services et qui dépendent donc des pôles principaux. Voilà la tendance générale qui se dégage de ces deux restitutions. Alors, je voudrais juste simplement rappeler que ces restitutions ont été mises en ligne sur le site internet du Pays de la Haute-Sarthe, www.paysdelahaute-sarthe.fr, dans la rubrique Pays, Scott Actualité, et on a donc les documents et la synthèse que je viens de vous que je viens d'évoquer.
Ce sont les élus qui décident au final hein, des orientations et des objectifs qui vont suivre, et bien sûr ce document de présentation, voilà, première étape pour le pays, donc à l'horizon 2025 environ. Mais ce projet de territoire est également celui de la population, monsieur Goyer, n'est-ce pas?
Bien sûr, oui.
La population est associée en fait à ce SCOT.
Effectivement, la population est associée par ce SCOT à travers le Conseil de développement, hein, puisque le Conseil de développement, c'est une société, enfin c'est la représentation de la société civile. Donc on fait participer la population à travers des ateliers, à travers des concertations pour justement l'avenir des 15-20 ans qui viennent, donc sur le territoire du Pays de Haute-Sarthe.
Parce que évidemment les élus sont dans leur mairie, mais les entreprises, les associations, les différents organismes qui sont sur le territoire sont justement vivent sur le territoire et le font vivre ce territoire. Donc finalement ils ont un avis à donner.
Ils ont un avis à donner effectivement et ce sont effectivement des gens qui sont souvent oubliés dans les différentes concertations concernant la vie politique et la vie politique
publique.
Public, ouais. Ils sont associés pleinement à travers le Conseil de développement. On a d'ailleurs effectivement créé un Parlement jeune, hein, donc le Parlement jeune qui travaille, hein, donc qui réunit une représentation de jeunes sur le territoire, tel que le dernier Parlement qui a réuni 120 jeunes, et qui ont pu travailler sur la mobilité, notamment pour les 15-20 ans qui viennent.
Alors c'est peut-être l'occasion d'en parler, la mobilité, même si on consacrera une émission entière sur ce dossier, voilà. On va continuer à parler de ce SCOT à travers les différents thèmes qui sont abordés. Mais justement, lors de cette restitution et auquel le Parlement des jeunes a été convié, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Quels étaient justement les soucis des jeunes concernant quelles étaient leurs demandes déjà concernant la mobilité, les polarités? Voilà, comment c'est un territoire qui est très large et finalement peu dense, hein, peu dense en habitants.
Oui, Nicolas l'a souligné, effectivement, on a des zones quand même très rurales, et donc notamment les communes qui sont en dessous de 500 habitants, et qui sont démunies de services et de commerce, et même si les jeunes sont conscients qu'on ne peut absolument pas avoir tous ces services au sein des communes, mais malgré tout, ils ont quand même envie de pouvoir bénéficier des mêmes choses que les villes et que nos chefs-lieux de canton. Et effectivement, ce qu'ils ont envie, c'est qu'il y ait peut-être, pourquoi pas, des transports qui puissent les emmener, donc un service de mutualisation de ces moyens et d'accès tout au moins à ces moyens.
Autant dans le SCOT du Pays du Mans, ce sujet n'est pas tellement problématique, autant sur le SCOT du Pays de la Haute-Sarthe, il l'est.
Bien sûr, au niveau de la mobilité, c'est sûr, c'est très problématique. Même si le Mans, ils ont d'autres difficultés, bien probablement.
Je voudrais juste rajouter aussi, évoquer le fait que sur la phase de diagnostic, on a une telle dynamique qu'aujourd'hui, il est notamment question d'affiner le diagnostic au niveau du tourisme et au niveau de la culture pour éventuellement déterminer une stratégie touristique à moyen terme et une stratégie culturelle à l'échelle du pays. Voilà, donc il y a toute une dynamique qui est très très intéressante et on sent les élus très très attentifs à ce projet.
Effectivement, ce diagnostic permettra de définir des échelles de pertinence, et notamment dans des domaines comme la culture, le tourisme, l'économie, et je pense que c'est très important, et c'est ce que, je pense, un certain nombre d'élus attendent.
finalement, la Haute-Sarthe, ça, on se dirige vers, voilà, c'est un territoire qui pourrait, dans son développement futur, faire beaucoup pour le tourisme, en tout cas, voilà, attirer beaucoup de monde par son environnement patrimonial, par son environnement naturel, par son environnement touristique.
Oui, complètement. On a un potentiel aujourd'hui sur le territoire qui est très très important. À nous de le valoriser, et puis ça permettra sûrement aussi de diversifier l'activité économique du territoire.
Merci donc Nicolas Potier, merci Lionel Goyer. Je rappelle que vous êtes respectivement directeur du pays de la Haute-Sarthe et président du conseil de développement de ce pays.
Merci
à
bien.
Vous.
Merci.
Cette émission Pays d'aujourd'hui, territoire de demain vous a été présentée par le pays de la Haute-Sarthe en collaboration avec Fréquencillé 97.9 et Radio Alpes-Mancelles 106.3 avec le soutien financier de l'État.
Cette émission sur le schéma de cohérence territoriale du pays de Haute-Sarthe a été réalisée par Emmanuel Bouget de Fréquencillé.